4h du matin, nous sommes le 9 février 2010 et c'est parti pour un voyage de 10 jours au Kenya. Nous avons retrouvé près de la pyramide tous ceux qui sont venus, ceux qui ont rendez-vous pour ce voyage.
Comme vous l'entendez, la voix est un peu faible vu l'heure, mais le plaisir du départ est grand. Après avoir arpenté les couloirs de la résidence pour vendre pizzas et hamburgers, après être passé à deux doigts de l'annulation, ça y est, nous pouvons enfin partir pour l'Afrique. Laure, Enora, Julien, Rémi, Jean-Baptiste m'attendent à la pyramide et il est prévu que nous retrouvions Clément ainsi que les athers qui nous accompagnent, Emmanuel, Jeanne et Marianne, à l'aéroport. Première étape, Jean Massé pour le satobus qui doit nous conduire à Saint-Exupéry. Mais la problème, il ne circule pas, c'est donc la course au taxi. Laure est au téléphone avec Emmanuel.
On est 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 7, on est 6. C'est ce qu'on a fait, mais ils viennent pas.
Mais si, voilà. Ils arrivent dans 10 minutes.
Dans 10 minutes, ils arrivent. Bon, vous tiens au courant, voilà.
On y sera à l'heure, à l'aéroport.
Ils arrivent dans
10 minutes. Non, en voiture, on reste 20 minutes. Hein. Il va prendre le périph'.
On va se braquer ici, dès là qu'on commence.
Non,
c'est pas sexy. Alors, t'as j'ai pas eu de partir, je me suis fait braquer à Jean Massé. Mais attends, le décollage, il est à quelle heure de l'avion?
6h30.
Non, c'est
6h55. Ouais. Bon, 7h quoi. Et en plus, il paraît que l'enregistrement est déjà fait des bagages. Ouais. On a juste à mettre notre truc en
sus. Heureusement, plus de peur que de mal. Nous parvenons à trouver deux taxis et nous arrivons même avant Clément et les athers. De plus, l'avion décolle en retard, le temps de retirer la neige des ailes, car il a bel et bien neigé pendant la nuit. Après un vol rapide, nous faisons escale à Amsterdam, ce qui nous permet de voir si nous sommes assis les uns à côté des autres.
Julien, c'est quoi ta place?
C'est quoi votre place?
33, tiens.
30 E.
Moi, je suis en 29.
Ah oui.
Encore?
Y'a personne qui est en 29?
Moi, je suis juste à côté de toi parce que je suis en 30.
Moi,
je suis en 29G.
Moi, F.
Ah bah, ouais.
Je pense qu'on pourrait
F, c'est
près de là. F, c'est ouais.
En même temps, le paysage, c'est pas terrible. C'est quoi? L'océan, des îles, des montagnes, des forêts, enfin.
Banal. Les animaux partent devant nous.
Vous l'entendez déjà, nous nous prenons à rêver d'animaux sauvages. Et cela nous rappelle que nous avons tous une petite faim.
C'est un qui s'appelle les carnivores au sud de Nairobi pour manger du crocodile. C'est sûr que ça doit être un peu comme de la grenouille.
Je sais pas. Tu sens que ça vient de l'eau, quoi.
Ouais.
Mais ça ressemble un peu à du poulet.
Poulet grenouille. Genre filamenteux comme ça.
Genre une viande blanche.
Ouais, c'est une viande blanche.
Ah, sorry.
Heureusement, un petit déjeuner nous est servi dans le vol Amsterdam-Nairobi. Mais comme il ne s'agit pas de manger pendant 10 heures, nous occupons aussi notre temps en regardant à travers le hublot. L'occasion pour Jean-Baptiste de montrer d'ores et déjà qu'il a vraiment beaucoup d'humour.
C'est pas sympa, hein. Tu vois, moi j'avais pas capté que c'était aussi enneigé que ça.
Regarde là en bas, le nid d'arrivée, enfin, une espèce de vallée.
Mmh. Vous avez vu le barrage
blanc, quoi. Ah oui.
Et enfin, c'est l'arrivée.
Après avoir failli rater le taxi qui nous emmenait à l'aéroport de Saint-Exupéry, après avoir fait une correspondance rapide à Amsterdam, nous atterrissons enfin à Nairobi. Il est 20h02 heure locale et nous venons de toucher le sol. La température extérieure est de 23 degrés et il fait bien sûr nuit noire.
Nous voici donc au Kenya, république africaine et ancienne colonie anglaise, indépendante depuis 1963. Le taux de croissance du pays est de 2,75%, ce qui lui permet d'échapper à la catégorie des pays les moins avancés, sans pour autant pouvoir vraiment prétendre à celle des pays en voie de développement. Nous n'en savons guère plus lorsque nous arrivons, et il nous faut donc partir d'entrée de jeu à la découverte de ce pays encore mystérieux. Et pour cela, première étape, échanger nos euros contre de l'argent kenyan.
Alors étape change. La monnaie au Kenya, c'est le shilling kenyan. Et le taux de change ce soir, c'est 1 euro égale 99 shilling kenyan. partirais combien?
Je retirais 6000 shillings, ça fait 60 euros.
Après cela, direction notre auberge de jeunesse, le YMCA. Et oui, ça ne s'invente pas. Après une nuit de repos bien méritée, sans trop de moustiques ni trop de chaleur, direction l'IFRA, Institut français de recherche en Afrique, où nous attend notre hôte Bernard Callas. Ce matin, l'objectif, c'est d'en apprendre un peu plus sur le pays, et Callas est intarissable.
Le Kenya, grossièrement, c'est aussi grand que la France, en termes de taille. Aujourd'hui, 40 millions d'habitants, vous avez une croissance démographique de 2,8% par an, qui fait qu'en 2020, on sera à 60 millions de Kenyans. Donc ce territoire, cet espace kenyan, c'est simple. C'est un état jeune. Les frontières, par exemple, les frontières orientales, elles n'ont été fixées qu'en 1926. Dans sa structure administrative aussi, on est en train de passer aujourd'hui de 210 circonscriptions électorales à quelque chose comme 350. Je ne sais pas si vous imaginez en France ce que ça voudrait dire, etc. Alors, ça se justifie évidemment par la croissance démographique. C'est aussi prétexte à toutes les manipulations politiques, ethniques. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre de cet état? C'est que les deux tiers du pays sont inutiles. Ce sont des basses plaines, chaudes, peu peuplées, livrées à des pasteurs qui depuis 100 ans sont rétifs à la sédentarisation, qui sont rétifs au pouvoir de l'État. Donc cet espace-là, grossièrement, c'est un espace mal contrôlé par l'État et souvent, pas dangereux, mais pas sûr. C'est un espace d'autant moins sûr que le Kenya est un état stable dans une zone instable, surtout au nord. Bon, la Somalie, je vous passe les détails. En Éthiopie, le sud de l'Éthiopie est une région aussi assez peu sûre. Et le Sud-Soudan, c'est une zone de guerre entre 1983 et 2005, pendant 22 ans. Et là, ça va reprendre d'ici quelques mois, ça va reprendre très certainement. Donc, Kenya inutile, et Kenya utile, celui des hautes terres, celui des fortes densités, celui des cultures de rang, celui des villes, celui des zones équipées. Avec un port à Mombasa ici, 10 millions de tonnes de marchandises par an. C'est rien pour nous. C'est la porte d'entrée océane de l'ensemble de l'Afrique de l'Est, du nord de l'Afrique de l'Est. Il y a des marchandises qui vont jusqu'au Congo. Et puis le hub de Nairobi, où vous avez atterri ici, là. Nairobi, c'est 4 millions d'habitants, donc c'est 10% de la population.
Alors voilà pour la géographie, mais monsieur Callas, n'auriez-vous pas quelques repères historiques?
Vous voulez des repères historiques? Qu'est-ce que je peux vous donner? 9e siècle, en Mésopotamie, donc pas du tout le Kenya, la révolte des Anges dans la région de Bassora. Les Anges, c'est des esclaves noirs que les Arabes importaient de cette région-là. Donc, ce qui signifie que déjà à cette époque-là, il y avait des liens étroits entre la côte Swahili et la péninsule arabique. Et donc c'est le début de l'émergence de la culture Swahili, qui est une culture syncrétique sur fond de région musulmane. Donc, ça c'est le 9e siècle. 1496, les Portugais arrivent sur la côte, là, ils vont s'installer à Mombasa. Là, 16e, 17e, vous avez des migrations nilotiques qui viennent, comme leur nom l'indique, de la région du Nil et du Sud-Soudan, et qui migrent en direction du sud-est, comme ça. Voilà. D'où, à partir du 16e siècle, sans doute une rencontre entre des groupes bantous et des groupes nilotiques. Pendant ce temps, maturation de la civilisation Swahili. Au 18e, les Portugais sont expulsés. 18e, 19e, c'est la grande période de la traite esclavagiste arabe. Il va laisser des traces très profondes. Cette traite esclavagiste, elle est en partie responsable de l'utilisation des montagnes comme refuge. Donc 19e, les premiers explorateurs, missionnaires, administrateurs, qui vont partir à la découverte de l'intérieur de l'Afrique, les sources du Nil. La mainmise, elle s'accélère à partir de 1890. Les Britanniques souhaitent mettre la main sur le royaume du Bouganda, qui est situé en Ouganda, ici, qui tient les sources du Nil. Les Allemands, eux, souhaitent s'accaparer la Tanzanie. Donc, Il y a un traité qui fixe cette première frontière en 1890, qui est le traité Heligoland. Ensuite, de 1890 à 1910, se met en place la colonisation britannique. Cette colonisation britannique au Kenya, c'est une colonisation de peuplement. Et puis après la Première Guerre mondiale, il va y avoir toute une politique d'installation de blancs sur des terres blanches. C'est-à-dire une grosse part du Kenya cultive. Ces terres blanches, elles sont pratiquement toutes situées au-dessus de 1500 mètres. Parce qu'au-dessus de 1500 mètres, il n'y a pas de malaria. Elles sont associées la plupart du temps avec des réserves. Entre guillemets, des réserves native reserves. Donc des réserves où, où sont installés les Noirs. Dans les années 30, les Noirs ne sont pas trop contents parce que il y a une croissance démographique grâce aux progrès médicaux. Donc il y a toute une contestation foncière qui se met en place, qui sera le ferment du mouvement nationaliste, avec une guerre d'opération de 1954 à 1957, qui s'appelle la guerre Mao-Mao, qui fait 12 000 morts, je crois. À la suite de quoi ? En 1957, sera déclaré le plan, ce qu'on appelle le plan Swinnerton, qui est un plan de développement et qui autorise les Noirs à planter, cultiver, récolter des cultures de rente comme le café et le thé, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire avant. Donc le mouvement nationaliste, 1963.
Et rapidement pour terminer, quels sont aujourd'hui les défis que doit relever le pays ?
À mon sens, en tant que géographe, il y a auxquels se heurte la société kenyane aujourd'hui. Le premier, c'est la pauvreté. Et après, les cinq suivants, c'est cinq mots qui commencent par D. La question démographique, la question démocratique, la question de la domination, la question de la dépendance et la question de la durabilité.
Et après une longue, mais néanmoins intéressante matinée de conférences, place au repas qui commence avec la boisson locale, la bière Tusker, facilement reconnaissable à son étiquette jaune sur laquelle trône un éléphant. Santé.
Et au Kenya alors. Hein.
Merci
pour l'accueil.
Leur pas est l'occasion de poser quelques questions sur les règles de bonne conduite, ce qu'il faut faire, mais surtout ne pas faire, en compagnie de Kenyans. Bernard Callas réfléchit, et soudain, il pense à la recommandation essentielle.
Ah si, manger avec la main gauche. Ouais. Jamais manger avec la main gauche, on mange avec la main droite. Oui. Théoriquement, on s'essuie les fesses sans papier, avec la main gauche et avec de l'eau. Donc la main gauche, elle est impure. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit pas propre, mais et c'est bon. Manger avec la main gauche, c'est pas terrible.
D'accord.
Oui, on peut manger. Bon, manger à la main, c'est pas très grave. Hein.
Vous allez voir, mais main droite. Quoi.
Mais main droite, plutôt. Ça se perd un peu avec l'utilisation de papier hygiénique, mais bon, ça c'est.
D'accord.
Et puis d'un coup, une question toute bête, mais qui permet d'en dire long sur la vie des Kenyans. À quoi peut bien ressembler une journée type ?
Les gens moyens. Il se lève vers 5-6h du matin. S'ils n'ont pas d'argent, ils se lèvent vers 5h. S'ils ont de l'argent, ils vont se lever vers 6h. Ensuite, ils vont aller prendre soit prendre leur transport en commun. Ils vont essayer de trouver du boulot, ou ils ont du boulot. Et vers 10h, ils vont prendre un thé machin, là, un thé, pas masala, mais un thé avec du pain.
Ouais.
S'ils sont riches, ils vont manger à midi.
Ouais.
S'ils sont pas riches, ils vont la sauter. Ils prendront un gros repas. Sur le chemin du retour, s'ils sont pas riches, donc ils marcheront. Sur le chemin du retour, ils grignoteront un épi de maïs grillé, soit avec des pias. Et le soir, ils vont se manger la farine d'ougali, un gros farine de maïs, un gros machin qui cale. Et après, alors. S'ils sont riches, ils vont manger vers 3h. L'idéal, c'est de manger vers 3h et de remanger vers 9h. Le journal télévisé, il est à 9h. Ça vous donne une indication à peu près.
La fin de la journée nous permet de faire connaissance avec d'autres membres de l'IFRA ou d'instituts de recherche comme le CIRAD ou l'IRD. Les Français à Nairobi semblent être nombreux. Justement, Bernard Callas nous propose le lendemain une journée consacrée à l'Alliance française à Nairobi. Pour commencer, direction l'ambassade, Oui, mais voilà, Mr. Callas a oublié de remplir quelques contraintes administratives et se retrouve bien embêté devant le portique de sécurité lorsqu'arrive Madame Elisabeth Barbier, l'ambassadrice. Quelques minutes plus tard, nous sommes autorisés à entrer. L'ambassade est située dans un lieu atypique, au beau milieu de Nairobi, où elle occupe deux étages dans une tour du quartier d'affaires. Madame Barbier, l'ambassadrice, nous reçoit. Elle nous explique les nombreuses missions de l'ambassade et plus largement des Français.
Alors, au Kenya, c'est un poste où j'ai, disons, trois casquettes. Donc, il y a l'aspect relation bilatérale avec le Kenya lui-même. Il y a l'aspect relation bilatérale avec la Somalie, en fait, puisque nous avons fermé notre ambassade en Somalie en 93 et que depuis, les relations avec la Somalie et les questions somaliennes sont gérées par cette ambassade ici à Nairobi. Et puis, la troisième casquette, c'est du multilatéral. Je suis représentante permanente auprès de deux programmes des Nations Unies qui sont basés à Nairobi. Le programme des Nations Unies pour l'environnement et ONU Habitat. Pour faire tout ça, je dispose de 52 ETP, équivalent temps plein. Alors, il peut s'agir de gens qui travaillent directement pour l'ambassade physiquement rassemblée ici, que ce soit des personnels expatriés ou des personnels de recrutement local, français ou étrangers. Mais ça recouvre aussi, par exemple, Mr. Callas, l'Alliance française au niveau directeur, enfin tout ce qui est personnel expatrié à l'Alliance française, c'est aussi, ça fait partie aussi de notre périmètre d'équivalent temps plein. Oui, donc on a la chance ici au Kenya d'avoir, c'est une ambassade de taille moyenne, relativement grosse pour un pays dans lequel on n'a pas de liens historiques, culturels, etc., majeurs. En même temps, c'est un pays qui, dans sa région, est très important, enfin dans la région Afrique de l'Est, y compris Corne. Donc, ça explique que notre dispositif ici soit quand même assez important par rapport à d'autres ambassades environnantes. Et plusieurs des agents qui travaillent bien directement pour l'ambassade, ou bien que ce soit l'AFD ou la mission économique, ont une compétence régionale. Les instituts de recherche aussi ont une compétence régionale. Alors pour faire simple, personne n'a vraiment la même région, mais c'est pas grave. Disons que le cœur pour nous ici, enfin vu du Kenya, c'est quand même la région Afrique de l'Est, donc la East African Community. Mais pas seulement.
Et en fait, vous en tant qu'ambassadeur, vous avez quel rôle de regard justement sur toutes ces différentes institutions, à part celles qui dépendent donc directement du MAE, mais par rapport à celles qui dépendent d'autres ministères, votre rôle vis-à-vis de ces institutions et lequel exactement?
Vis-à-vis de ces institutions, le rôle de l'ambassadeur, c'est vraiment un rôle d'animation, de coordination. Enfin, je veux dire, depuis que je suis là, c'est ce qui m'occupe le plus, et en même temps, c'est ce que je considère le plus important, c'est d'arriver à ce que tout le monde déjà donné en gros des orientations. Bon, enfin, ça, je dirais, elle s'impose un peu à tout le monde.
Après cette visite fort instructive à l'ambassade, la journée continue. Mais c'est le soir que nous attendons avec impatience, puisque la famille Callas nous a invités à une petite réception où seront présents beaucoup des expatriés français à Nairobi. La maison familiale est située dans une gated community, comme c'est le cas pour bon nombre des logements abritant les classes moyennes et supérieures. Nous arrivons parmi les premiers et je profite de ces quelques instants avant l'arrivée des autres invités pour vous montrer combien la présence quasi permanente d'un appareil d'enregistrement est pour un jeune géographe comme Julien l'occasion de révéler ses talents d'acteur. Écoutez-le, il simule avec brio la passion et l'érudition.
Oh putain, t'es mal bête d'armes quoi. La voix de la géographie là.
Géographe cultivé.
Voilà pour Julien. Peu à peu, tout le monde arrive et nous prenons le temps de discuter un peu avec les gens. Ils sont passionnés par l'Afrique mais se sentent parfois loin de la France, où ils n'ont pas l'occasion de retourner souvent, et où se trouve généralement leur famille. Si nous ne pouvons pas leur apporter grand-chose, nous ne sommes toutefois pas venus les mains vides, et comme le montrent les réactions au discours de Bernard Calas, nos petits cadeaux produisent un effet que nous n'imaginions pas.
Bienvenue à Madame l'ambassadrice, d'abord, et bienvenue nos 10 Lyonnais qui sont venus avec du saucisson.
Merci. Ah, oh, merci.
Ce sont les andouillettes. Qui sont venus avec du fromage.
Ouais.
Voilà, que vous allez avoir tout à l'heure. Et qui sont venus avec quelques bouteilles de champagne. Je ne sais pas si
vous avez assez. Mais ils sont bien, ces petits Lyonnais.
Pourquoi je les ai fait venir ici? Parce que la mission, une des missions de l'IFRA, au-delà de faire la recherche, c'est de former à la recherche, notamment des jeunes Français, à s'intéresser à ce qu'on appelle l'ailleurs lointain, et plus spécifiquement ici, donc à l'Afrique de l'Est. Donc c'est pour leur donner le goût du terrain, et puis pour leur ouvrir d'autres horizons professionnels, parce qu'ils sont formatés, programmés pour devenir maître de conférence, professeur, donc dans l'excellence universitaire. Malheureusement, l'excellence universitaire, elle est de plus en plus bouchée, et parfois elle ne correspond pas à leurs attentes. Donc aujourd'hui, on leur a organisé, grâce à vous tous, une journée dispositif français qui leur a permis de rencontrer un certain nombre de Français qui font la France ici.
Tentaient de nous faire quitter l'excellence universitaire et pour venir sous le soleil du Kenya. Mais quelle drôle d'idée. Mais revenons à la soirée qui bat son plein tellement que les bouteilles, elles, se vident. C'est ainsi l'occasion pour nos athères préférés de nous donner une petite leçon de terrain très utile aux géographes, sans doute celle que nous avons retenue le plus facilement.
Quand on te dit, quand tu pars du village de montagne, tu pars pour repartir en ville, c'est-à-dire
tu t'appelles peut-être pas, hein.
Et qu'on te dit à 8h du matin, bois un verre d'alcool de riz.
Ah bah oui, ça c'est
oui, et puis on te dit, n'en bois pas qu'un, parce que tu dois en boire deux, parce que tu as deux jambes.
Donc tu veux dire que ce soir, en fait, tu as...
J'ai fait honneur à la réception de notre hôte.
Voilà.
Et j'adore le champagne.
Il est donc pour tout le monde grand temps d'aller se coucher, et ce d'autant plus que le réveil du lendemain se fait aux aurores. En effet, ce matin, direction le grand parc de Nairobi pour un safari. Nos géographes deviennent ainsi le temps de quelques heures de vrais touristes et se mettent à chanter de quoi se mettre dans l'ambiance. Voici donc pour toi, public, un duo JB Thibault.
Dans la jungle, terrible jeune, le lion est mort ce soir. Tout est sage dans le village, le lion est mort ce soir. Oh oui, oh oui, Maui, oh oui, Maui.
Mais peu après, nous montons dans notre véhicule en compagnie de Robert, notre guide, et c'est parti.
Allez. Rémi, il est trop grand pour le truc.
Rémi, il va monter sur toi.
Belle plot en mousse pour poser la carabine.
Où est la carabine déjà?
Silence, à partir de maintenant, silence. Quête chasse au lion, les gars.
On va juste mettre de la place au visage.
Et avant de partir en quête du lion, les premiers animaux que nous rencontrons sont les babouins.
Tu vois pas des armes, hein?
Ouais. Des armes.
Tu vois pas des armes?
Si, mais où?
Tu vois rien.
Ah oui.
It's not dangerous. Des baboons?
Ah, y'en a plein!
Ah, si, c'est baboons!
Mais ça, tu fais pas trop la merde!
Y'en a, il a sifflé une morille! Ah, ça sent le sang, quand même!
C'est pas des baboons, ça!
T'as vu la mère qui porte son petit?
Ça a quand même une sale tronche, hein!
Ouais, j'ai hyper peur, les gros mâles là, je sais qu'ils ont des dents de fou. Ils ont des nez bizarres.
Ah, regarde le tout petit. Ils grattent.
Robert dit que les quelques dizaines d'individus que nous voyons forment une seule famille. Et s'ils rencontrent une autre famille, ils se battent. Ils ont un chef.
The leopards
can kill the baboon.
Quand on attaque avec un léopard, le léopard peut tuer le babouin, mais souvent il s'attaque aux plus jeunes. Mais des babouins de cette taille ont pu tuer des léopards. Quant au parc, il a une superficie de 360 km². Il a été commencé en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale. Et il possède tous les types d'animaux, sauf des éléphants.
Ok. We see a giraffe.
Yeah, we shall see giraffes.
Et soudain, un rassemblement d'animaux.
Regarde, buffalo. Regardez là.
Ah oui. Ah, trop tard, il a bougé. Il y a deux girafes de dos. Peut-être qu'on puisse pas approcher un peu les bûches là.
Là, il y en a pas mal. Hein.
Ah oui.
En fait, oui, c'est le. C'est le
troop of buffaloes.
Ah oui.
Bah, mais il y en a dans l'herbe aussi, on dirait. T'as vu, tu t'es cornes.
Ouais, c'est vrai. Ah, il y a encore un window bird.
Ouais. Oh, des zèbres là-bas.
Ouais, il y a des zèbres. J'ai l'impression que les herbivores, ils vivent un peu tous ensemble. Quoi.
Bah ouais, ils bougent pas trop.
Bientôt, grâce à Robert, les animaux d'Afrique n'ont plus de secret pour nous, si ce n'est le lion qui ne s'est pas montré. Une pause au Café du Parc, lieu touristique par excellence avec ses abat-jours en peau de zèbre, nous permet d'apercevoir des phacochères, puis nous partons. Le changement est brutal puisque c'est une visite de bidonville qui est prévue l'après-midi et nous avons quelques remords à avoir joué les touristes au zoo lorsque nous arrivons sur place à Kibera. Deux images contradictoires du pays apparaissent brutalement. Dans le bidonville, nous découvrons une réalité loin du misérabilisme des médias occidentaux. La pauvreté existe, elle est très visible, mais le quartier vit, avec ses échoppes dans de grandes artères commerçantes où l'on trouve coiffeurs, poissonniers ou encore bouchers avec leurs carcasses peu ragoûtantes pendues à un crochet, un peu à l'ombre, mais dans la chaleur. On croise nombre d'enfants, dont certains en uniforme sortent de l'école, car il y en a dans les bidonvilles. Quand ils nous voient, ils nous crient « Mzungu », ce qui signifie « blanc ». Puis ils ajoutent « How are you ?» en attendant que nous répondions « Fine » et que nous leur serrions la main. Nous sommes un peu l'attraction du quartier pendant quelques instants. Nous rencontrons des médecins dans une clinique spécialisée dans les soins aux femmes enceintes et aux nourrissons, ainsi que dans le dépistage du sida et le soutien aux séropositifs. Leur dévouement est exemplaire. Nous visitons aussi des infrastructures originales pour ce quartier qui souffre de sous-équipement, comme ces latrines publiques qui produisent du biogaz à partir d'excréments, ce qui permet d'alimenter une douche d'eau chaude et d'avoir un lieu pour la cuisson des aliments. Il est difficile de sortir les micros sans paraître voyeur ou irrespectueux. Aussi, je m'abstiens d'enregistrer trop longtemps. Nous attendons le soir, au dîner, pour débriefer.
C'est pas le bordel fait froid non plus, quoi.
Mais non, en fait, c'est pas du tout anarchique.
C'est la vraie société.
C'est la vraie vie
normale.
C'est la vraie vie, sauf que c'est dans des détenus.
En fait, mais genre, c'est par exemple un carré.
Je sais pas, moi, j'aurais jamais imaginé que c'est ultra bête, puisque dans le français, c'est tout simple. J'aurais jamais imaginé qu'il y avait des écoles dans le bidonville. Je me disais, c'est tous des gamins qui vivent dans la rue.
Il
y a des milliards d'écoles, il y a des écoles partout.
Des écoles.
Enfin, je me disais qu'ils allaient à l'école, parce qu'on en a parlé au début, mais je pensais pas que c'était dans le.
Et puis
dans
des écoles privées, une église.
Et puis surtout la capacité des gens à se prendre en charge, c'est-à-dire qu'ils font tout eux-mêmes, ils construisent des trucs, ils font leur hôpital, ils organisent leur vie. Non, mais je veux dire, tous les gens qui travaillent, c'est des gens qui habitent dans le bidonville.
Et après 3 jours à Nairobi, une première partie du voyage se termine, car nous nous séparons. Laure, Julien et Clément restent à Nairobi et partiront sillonner les espaces ruraux contrastés du pays. Et Nora et Rémi sont déjà partis pour Mombasa, au bord de l'océan Indien, pour étudier enjeux environnementaux et patrimoniaux dans le delta du Tana. Quant à moi, je pars avec Jean-Baptiste à Kisumu, ville du bord du lac Victoria, pour étudier les formes urbaines et les enjeux du développement futur de la ville. Vous aurez bien sûr un écho de ces expériences très bientôt dans de nouveaux reportages. Vous venez d'écouter Carnet de voyage à Nairobi, un reportage de Thibaut Sardier pour Transistor. Je tiens à remercier au nom de tous les géographes de l'ENS partis au Kenya, Bernard Callas, l'IFRA et tous les expatriés français rencontrés sur place, mais aussi les Kenyans avec lesquels nous avons pu échanger. Merci aussi à tous ceux qui, en France, nous ont permis de partir en participant au financement, sans oublier notre trio d'atterres de choc, Jeanne Vivet, Emmanuel Pével et Marianne Blache. À bientôt sur Transistor.